Exhortez-vous par des cantiques spirituels. C'était le cas. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Bonsoir mes frères et sœurs. Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans cette deuxième épître. L'apôtre Paul est en prison. Il sait qu'il va bientôt rejoindre le Maître. Mais il est dans la communion avec Dieu. Et il va écrire à un jeune pasteur des choses qu'il avait besoin d'entendre. Car, quel que soit notre niveau dans le service, nous avons besoin d'entendre ou de réentendre certaines choses pour que nous ne perdions pas cette flamme que Dieu veut que nous ayons. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, du verset 1 au verset 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Amen. Timothée était en train de vivre une situation certainement difficile. Nous sommes tous amenés dans des circonstances différentes, à vivre des situations différentes. D'ailleurs, au chapitre 4, c'est bien de le voir. C'était un jeune pasteur, et regardez ce qui est dit dans cet épître. Au chapitre 4, verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Il devait y avoir certainement des frères, des anciens peut-être, qui ne comprenaient pas le ministère de Timothée. Et le Saint-Esprit, voyant son cœur, car Dieu voit notre cœur, Dieu regarde au cœur. Vous le croyez ça? Dieu regarde au cœur. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour voir celui qui le cherche. C'est une chose de prier parce qu'on a besoin. C'est une chose de chercher Dieu. Besoin ou pas besoin. Quoique quelqu'un qui cherche Dieu, il n'a pas besoin de s'occuper de ses problèmes. Dieu s'en occupe. Le Saint-Esprit va inspirer Paul pour qu'il entende une parole dont il a besoin, de la même manière que lorsque nous nous mettons dans notre chambre, ou dans notre endroit secret, nous disons « Seigneur Jésus, j'ai besoin d'une parole, un mot, dis un mot, un verset, je prendrai le temps qu'il faudra, mais je veux qu'une parole touche mon cœur. » Parce que les combats, il y a des jours faciles, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des jours très difficiles. La Bible en parle. Paul est en prison. Il ne demande pas qu'on prie pour lui, pour qu'il sorte de prison. Il dit « Priez pour moi, priez pour moi. » Plusieurs fois, « Priez pour moi. » Il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. C'est une situation que beaucoup de gens peut-être n'accepteraient pas. Mais il sait, parce qu'il est en communion avec Dieu. La preuve, c'est que même en prison, le Saint-Esprit l'a utilisé bien souvent pour parler aux chrétiens. Et que Dieu a certainement même permis qu'il soit en prison pour qu'il ait du temps pour écrire ces lettres qui bénissent l'histoire de l'Église dans tous les pays du monde depuis 2000 ans. Dieu sait où vous en êtes, Dieu sait ce que vous avez besoin de recevoir, Dieu sait ce que vous avez besoin de corriger, de retrouver. Notre frère Daniel, dans sa prière, faisait mention de l'église de Laodicée qui se sentira reprise par Dieu d'une manière solennelle parce qu'elle est tiède. Et peut-être que le mépris, parce que vous savez quand il dit que personne ne méprise ta jeunesse, on a vite fait de mépriser quelqu'un. On a vite fait de le mépriser. C'est-à-dire ne pas attacher de prix à ce qu'il est. Pourtant c'était un homme qui aux yeux de Dieu avait beaucoup de valeur. La preuve c'est que plusieurs fois il en est parlé dans la Bible de cet homme. De ce jeune homme, qui a vaincu cette affaire avec beaucoup de grâce. Et bien sûr, nous voyons dans le peu de textes que nous avons lus qu'il y a un combat à mener, un bon combat. D'ailleurs, Paul termine en disant, c'est sa dernière lettre, ne l'oubliez pas quand même, c'est le dernier message de l'apôtre Paul, il sait qu'il va mourir, il dit, voilà, moi j'ai combattu le bon combat. S'il y a de très mauvais combats, et vous le savez certainement, le combat contre la chair et le sang sont des combats pénibles. Vous avez déjà combattu contre la chair et le sang ? Des situations avec des gens ? Vous savez combien c'est pénible ? Et il y en a un qui se gargarise pour nous voler notre couronne que nous combattions contre la chair et le sang. Mais il y a un bon combat. Le bon combat, c'est quand le Seigneur nous parle et que nous en arrivons à lui faire une confiance telle qu'il combat pour nous. Alléluia. Certaines choses doivent être dites. Qu'est-ce qu'il lui dit au début, au verset 2 ? Timothée, mon enfant, on le voit, pasteur, pas pasteur, serviteur, nous sommes d'abord des enfants du Seigneur. Timothée, mon enfant, bien-aimé. Trois choses pour commencer. Trois choses indispensables pour commencer n'importe quelle vie spirituelle. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas la façon dont vous marchez avec Dieu. Quels sont les progrès que vous faites, rapidement ou pas. Mais une chose est sûre, quelle que soit notre marche, nous avons besoin de grâce, c'est-à-dire cette faveur imméritée, de miséricorde continuelle, parce que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, et de paix, parce que le royaume de Dieu, j'aime le dire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc il lui rappelle qu'il faut qu'il veille sur ces choses-là, parce que ces choses nous les obtenons. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. On obtient, la prière c'est pas répéter des paroles, la prière c'est obtenir. Amen. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Vous savez, quand on chantait le troisième cantique, là, je disais, Seigneur, que tu es bon. Quand Dieu répond à vos désirs, vous savez, les désirs, on pourrait... Moi, je me souviens d'une chrétienne, j'avais parlé de ça il y a longtemps, c'était Albi, vous voyez, c'est vieux, ça a plus de 30 ans. Et j'avais prêché que Dieu s'occupait de nos désirs. Il y a une chrétienne qui à la sortie m'a dit, mais non, monsieur Gau, Dieu s'occupe que de nos besoins. J'ai dit, je suis désolé. Je suis désolé. 5 ou 6 fois dans la Bible, il est parlé que Dieu s'occupe aussi de nos désirs. Alléluia. Et je dis, quand j'en chantais, je pensais vraiment à quelque chose que Dieu m'a accordé en septembre. Vraiment un désir profond. Je n'ai même pas parlé à ma femme. Et Dieu l'a exaucé. Avant le jeûne, vous savez qu'on avait une jeûne. Et j'ai dit, tiens, pendant cette semaine de jeûne et prière, je vais demander ça au Seigneur tous les jours. Dieu m'a exaucé avant pour montrer bien que tout est grâce. Nous avons un Dieu qui est puissant. Et Paul exprime à Timothée cette lettre pour lui montrer que même si des gens le méprisent, parce que c'est ce qui s'est passé, que personne ne méprise ta jeunesse, il fallait en même temps que cette affaire soit connue. Et il lui dit, voilà, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Tu as eu l'intelligence de suivre l'exemple de ta mère et de ta grand-mère. Tu as gardé cette foi. Mais voilà ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se, sur lequel il te faut absolument veiller. Je t'exhorte, verset 6. Et mes frères et sœurs, je voudrais que vous preniez ce verset d'une manière sérieuse, solennelle. Vous qui demandez peut-être à Dieu, parle-moi. Je ne sais pas comment vous priez. Je ne sais pas comment vous priez chez vous, dans votre cœur. Je ne sais pas comment, si vous priez longtemps ou si vous ne priez pas longtemps. Mais comment vous priez? Si, Seigneur, parle-moi. Je vous le dis. Ce soir, écoutez cette parole du Seigneur qui est là dans le Saint-Livre. Ce n'est pas la parole de Monsieur Gault. C'est la parole de Jésus-Christ. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu. Car, verset 7, l'Esprit que Dieu nous a donné. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, vous n'avez pu le faire que par l'action du Saint-Esprit. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne, les gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu, les gens qui ne croient pas que Jésus est venu en chair dans le sein de Marie, les gens qui ne croient pas cela, qui croient en Jésus historique ou religieux, n'ont pas été touchés par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur du ciel et de la terre, si ce n'est par le Saint-Esprit. Et lorsqu'un homme se repent de ses péchés, lorsqu'un homme est convaincu de péché, que le Saint-Esprit commence à travailler son âme parce qu'il a ouvert son cœur avec un cœur honnête et bon, comme dit la Bible, le Saint-Esprit vient en lui et il sait en une fraction de seconde que Jésus-Christ est Dieu. Cet homme-là est touché par la grâce. Le Saint-Esprit lui a été donné. Et lorsque le Saint-Esprit nous a été donné, il y a vraiment un travail qui doit se faire. L'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. L'Esprit que Dieu nous a donné, au contraire, nous remplit. Alors il faudrait revoir justement ces choses. Comment comprendre combien l'ennemi s'acharne à nous appauvrir? Vous savez que j'aime ce texte parce qu'il m'est venu pendant la prière d'un frère, parce qu'il l'a cité, je crois. Que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Vous savez, si on a des victoires, c'est grâce à Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Bible, nous voyons les anciens qui jettent la couronne au pied du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez faire d'une couronne quand on sait très bien que toutes les victoires que nous avons sont dues à la puissance du Saint-Esprit? Mais quand même, franchement, vous pouvez le calculer comme vous voulez, mais ce que je vous dis, c'est d'une logique implacable. Il y a des chrétiens qui n'auront pas de couronne. Pourquoi? Parce qu'ils se seront fait voler les choses du Seigneur. Le diable est un voleur d'expérience. Je peux vous dire qu'il peut vous voler sans même que vous ne vous rendiez compte. Et mes frères et sœurs, le voleur, nous devons le dénoncer. Et nous devons laisser l'Esprit de Jésus-Christ habiter en nous. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Voilà ce que Dieu veut. Il n'y a peut-être pas d'abondance matérielle, c'est une chose. Il n'y a peut-être pas d'abondance de santé, c'est possible. Mais une chose est sûre, c'est que l'abondance spirituelle, Dieu la donne à tout le monde. Même Paul, que Dieu a maintenu avec cette écharde toute sa vie, pour qu'il dépende complètement de Dieu, a entendu le Saint-Esprit lui dire, après 3 fois qu'il ait prié avec persévérance, « Ma grâce te suffit ». Et toute sa vie, la grâce de Dieu l'a accompagné, malgré cette écharde. Et vous voyez comment il termine. Il est en prison, il ne râle pas, il ne boude pas, il ne pleurniche pas. Il écrit une lettre qui peut être aujourd'hui prêchée dans des milliers d'églises sur la terre, à savoir que nous avons reçu une parole de Dieu. « Je t'exhorte à ranimer la flamme. » Oui, Dieu nous a donné, que son nom soit béni. Oui, Dieu nous donne, il est capable de tout nous donner, il peut tout nous donner. Je te donnerai un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu donne, Dieu ne fait que ça en vérité. Il donne, mais il faut prendre. Car si il fait les 99 pas, il faut faire le pas de foi qui permettra de prendre ce qu'il donne. Et Timothée a traversé un moment difficile. Et Dieu l'a su, Dieu l'a vu. Dieu sait vers qui il doit aller. Moi, je suis étonné quand Jésus, dans son premier sermon, il parle de... Et les pharisiens ne vont pas être remplis du Saint-Esprit. Ils vont être remplis de colère. Parce qu'il va leur dire, mais vous savez, du temps de la famine, la grande famine qu'il y a eu. Vous savez, Seigneur Jésus, il s'est parlé. Du temps de la famine, la grande famine qu'il y a eu, le Seigneur n'a été envoyé que vers une veuve de Sarepta. Ils ont été furieux. C'est bien la preuve que Dieu regarde au cœur, où qu'il soit sur la terre. Et qu'une personne a la crainte de Dieu, quand elle entendra la parole, elle obéira, elle va dire, oh, c'est ce que j'avais besoin. J'ai perdu ce feu. Je suis redevenu tiède. J'ai besoin de retrouver cette ferveur. J'ai besoin de retrouver cette communion avec Dieu. Est-ce que nous nous rendons compte combien l'ennemi s'acharne à ce que nous devenions des religieux? Nous devons être des hommes et des femmes qui comprenons que lorsque nous fermons les yeux, parce que souvent quand nous prions, nous fermons les yeux, quand nous nous approchons, nous sommes dans la présence de Dieu. Et il se pourrait que plusieurs d'entre nous ayons besoin de retrouver cette ferveur qui fera que lorsque vous demandez à Dieu, vous savez que si vous avez obéi, si rien ne vient faire obstacle à la prière, bien sûr que si j'ai méprisé, si j'ai menti, si j'ai volé, si j'ai pas respecté quelqu'un, parce que la Bible dit que quand il dit par exemple au mari, Marie, aimez vos femmes, afin que rien ne viennent faire obstacle à vos prières. Mais c'est pas valable pour les maris et les femmes, c'est valable par rapport à tout le monde. Dans ce texte, il dit Marie, honorez vos femmes, mais juste un peu plus haut, il dit honorez tout le monde. Et je pense que nous pouvons être enseignés. Vous savez, quand dans le psaume 34, on pourrait le lire. C'est un de ces versets que j'ai appris par cœur, parce que je crois que Dieu le voulait. Dans le psaume 34, j'ai quelques versets, je ne veux pas être long. Je voudrais surtout que nous prenions des décisions. Je ne sais pas comment Timothée a réagi, mais je pense que vu la suite, je pense comment il est parlé de cet homme, il a dû bien réagir. C'est pas parce que Dieu nous parle que ça va marcher. Hein. Dans le psaume 34, il n'y a pas que le lion qui est rassasié. Dans le psaume 34, au verset 12, je regarde si vous suivez moi aussi. Dans le psaume 34, regardez bien, c'est un très beau verset qui montre dans quel état d'esprit un homme peut s'approcher de Dieu et être enseigné. Parce que quand même, je peux nous poser la question, est-ce que nous sommes enseignables ? Je ne parle pas est-ce que nous aimons la parole de Dieu, est-ce que nous sommes enseignables ? Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Vous savez que l'église de Jérusalem, on en a parlé dimanche, était en paix. Et elle s'édifiait dans la crainte du Seigneur, par l'assistance du Saint-Esprit. Je vous enseignerai, mes frères et sœurs, n'importe qui, même le plus ridicule, le plus stupide peut être enseigné. Vous voyez, des fois on me dit, oui monsieur, vous parlez, vous dites des choses, des fois c'est raide. Ben regardez, c'est dans le Proverbe 8. Non mais je vous le dis parce que, et c'est ça qui est beau en même temps. Regardez, non mais je le dis parce qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas que tout ce que je dis c'est la parole. Regardez bien, je le dis parce que c'est biblique, mais c'est bon, parce que le gars, le plus bas qu'il soit, il peut l'apprendre ça. Proverbe 8, verset 5, ça aussi c'est un verset que j'ai appris par cœur, parce que c'est un verset qui m'a béni. N'importe qui peut apprendre, être enseigné dans le discernement, dans la crainte, dans l'intelligence. Proverbe 8, verset 5, stupide, apprenez le discernement. Ah, même un stupide, il peut apprendre? Eh ben oui, comment vous le voyez? Insensé, quelqu'un qui a pas de bon sens, apprenez l'intelligence. Eh bien, vous le voyez comme quoi? Comme un reproche ou comme un encouragement? Mais voyez, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui est tout le temps, quelqu'un qui murmure, il voit tout le temps des reproches. Il entend une prédication, il va la considérer comme un reproche. Quelqu'un d'intelligent, il dit, mais c'est vrai que moi aussi, des fois, je suis stupide. Moi aussi, je manque de bon sens. Moi aussi, j'ai besoin d'être enseigné. Seigneur, enseigne-moi la crainte. Enseigne-moi le discernement. Enseigne-moi la sagesse. Sinon, nous tomberons à cause des choses qui peuvent nous blesser. Le mépris a fait que Timothée s'est certainement attiédi. C'est pour ça que je t'exhorte, ranime la flamme. Ranime la flamme. Tu as un ministère, tu as reçu quelque chose, tu es appelé par Dieu. Ranime la flamme du don que tu as reçu. Ranime-la. Dieu t'a pas donné un esprit de timidité. La timidité, c'est terrible, la timidité. La crainte, le manque de courage. Moi, on peut le lire, ce verset, parce que c'est un verset qui parle des lois de la guerre. Vous savez que le peuple d'Israël était un peuple d'une armée. Et moi, j'ai toujours été impressionné par ce verset dans le Deutéronome, chapitre 20. Ce verset 8, qui nous montre le danger du découragement, quand quelqu'un décourage. Vous savez, nous devrions nous exhorter les uns les autres. Parce que Paul exhorte Timothée, nous devons nous exhorter les uns les autres. Regardez, on va terminer avec cette affaire d'exhortation. Deutéronome 20, verset 8, c'est les lois de la guerre. C'est les lois de la guerre. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Vous voyez, c'est une question. C'est une question, il faut y répondre. Qu'est-ce qui a peur et manque d'eau? Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. C'est une loi sur la guerre. Le découragement peut détruire toute une nation. Ce matin, je suis dans le livre des Nombres, je lisais quand 10 espions, qui sont morts d'ailleurs le lendemain, ont découragé tout le pays. Ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. 10 espions ont découragé tout le peuple avec 3-4 paroles. Il ne faut pas beaucoup, vous savez, pour décourager quelqu'un. Quand Gédéon est choisi par Dieu, il fait une expérience avec Dieu, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il arrive à rassembler 32 000 hommes. Super. 32 000 hommes pour combattre l'ennemi. Les Madianites qui sont dans la vallée, comme des sauterelles. Comme le sable de la mer, dit le texte. Et Dieu dit, voilà, s'il y en a qui ont peur, qu'ils rentrent à la maison. Combien sur 32 000 vont partir? 22 000. Et encore, le Seigneur va faire un tri. Ça va pas. Il y en a qui vont pas bien. Et il va rester 300. Dieu va dire, ceux qui boiront l'eau de cette façon, c'est eux que j'utiliserai. Et sur les milliers qui restaient, les 10 000 qui restaient, 32, les 10 000 qui restaient, 10 000, bon, c'était bien encore, il devait se dire, bon, ça va. Sur les 10 000 qui restaient, ils les amenaient à la rivière, et tu ne prendras que ceux qui lapent l'eau, avec un genou au sol, qui regardent donc en face, qui ont la vision du combat. Les autres, ceux qui se mettront à quatre pattes pour laper comme un lapin chien, ils sont pas bons. Tu prendras ceux qui lapent en se mettant à genoux. Parce qu'ils regardent s'il n'y a pas l'ennemi. Ils sont prêts au combat, même s'ils doivent se désaltérer. 300. Ça nous encourage. On le voit dans plusieurs cantiques, j'ai pas le temps de vous donner les textes. Mais dans le cantique de Déborah, on voit qu'il y en a plein qui sont restés, qui n'ont pas voulu combattre. Mais ça fait rien. Dieu a donné la victoire avec ceux qui sont restés. Je t'exhorte, mon frère. Vous savez, je suis votre pasteur. J'ai été placé dans cette assemblée pour vous parler de la part du Seigneur. C'est ma responsabilité. C'est ma première et seule responsabilité en l'Église, même si je suis le responsable de l'assemblée. C'est ma responsabilité de vous dire ce soir, mon frère, je t'exhorte à ranimer la flamme. C'est important que nous soyons saisi par cette parole, que nous comprenions ce qu'est l'exhortation. Je t'encourage, parce que nous devons également après nous exhorter les uns les autres. Est-ce que c'est écrit « Exhortez-vous les uns les autres, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ». Vous savez, le jour vient où Jésus va prendre l'Église. Et il vaut mieux qu'il nous trouve en nous exhortant les uns les autres. Ça vaudrait la peine que vous preniez peut-être demain la concordance et que vous dites tiens, mais qu'est-ce que Dieu demande sur l'exhortation? Qu'est-ce qui est dit sur l'exhortation? Est-ce qu'il nous est demandé de nous édifier les uns les autres? Édifier, ça veut dire construire et pas démolir. Quelqu'un qui perd courage, il est en danger. Il va affaiblir les autres, mais sans s'en rendre compte. Vous savez, moi je lis l'ombre, je dis, quand on voit Dieu, combien de Dieu se met en colère, ils ne font que murmurer. Mais ils découragent tout le monde. Mes frères et sœurs, je vous exhorte, par les compassions de Dieu. Parce que Jésus va revenir. Parce que Dieu veut que nous soyons prêts. Parce que vous ne savez pas demain qui vous allez côtoyer dans la rue. Vous ne savez pas qui demain peut vous appeler au téléphone. Est-ce que quelqu'un en dépression peut vous appeler? Vous savez, il y a quelques temps de ça, il y a une dame qui est venue, je ne vous l'ai pas dit. Il y a une dame qui est venue, elle est venue à l'église, elle voulait se suicider. Et elle a vu à l'angle de la rue qu'il y avait une croix. Elle est venue à l'église. Elle me dit, je suis venue parce que j'ai vu une croix. Je veux me suicider. J'en ai marre. Enfin, vous comprenez. J'ai dit, mais rentrez. Rentrez. Écoutez la parole. À la sortie, elle me dit, mais tu es vivant. Eh oui. Ah, mais je vais téléphoner à ma mère. Elle a pris rendez-vous à sa mère. Elle est revenue 15 jours après. Je ne l'ai plus revue. Elle m'a dit, monsieur Gou, je me suis réconcilié avec ma mère. Je suis en paix. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais mes frères et sœurs, vous ne savez pas qui demain vous allez rencontrer. Parce que nous, on s'occupe de nos petits nombrils, comme le pasteur qui nous a formés nous disait, il faut arrêter de regarder autour de son nombril. Mais c'est vrai qu'on devrait, qui c'est que je vais rencontrer demain? Qui Dieu va me mettre sur mon chemin? Jérôme parlait sur les SDF, les paumés, etc. Mais Dieu peut vous mettre un pauvre, Dieu peut vous mettre devant un riche demain. Oui ou non? Seigneur, je veux ranimer cette flamme. Je ne suis pas pour faire le beau, parce que ce n'est pas pour faire le beau. Je veux ranimer cette flamme parce que demain, peut-être que je vais rencontrer ma voisine. Je dis ça parce que ce matin, notre voisine est venue à la maison, elle est venue nous amener des raisins, mais je veux dire, c'était surtout pour parler avec ma femme. Mes frères et sœurs, si le Seigneur ce soir te parle et te dit je t'exhorte, je t'encourage à être rempli. Après, ça nous amène à un autre sujet qui nous responsabilise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit? Parce qu'en vérité, j'ai pas le temps, mais c'est exactement ce qu'on devrait faire. Mais au fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit? Puisque Dieu dit, soyez rempli du Saint-Esprit, que toute amertume, toute calomnie disparaisse. Vous savez tout ce qui est dit sur le fait qu'on peut attrister. On y reviendra, parce que je pense que toute l'Église a besoin d'entendre ces choses. Il y a des choses qui attristent, il y a des choses qui éteignent l'esprit, il y a des choses qui nous éloignent de Dieu, il y a des choses qui font qu'on va perdre la couronne, alors que, et le diable lui se frotte les mains. Mais nous avons un Dieu qui nous dit, voilà, je t'exhorte à ranimer la flamme. Vous savez, le verset qui est venu sur mon cœur quand j'ai préparé cette prédication hier, c'est que même si ça ne va pas, vous savez quand Dieu dit dans Osée 4, verset 1, ne le cherchez pas, vous le lirez, quand il est dit, Dieu a un procès avec les habitants du pays. Il y a un truc à régler. Vous savez ce que c'est un procès, hein? Dieu a un procès. Ça veut dire qu'il y a un truc à régler. Il faut le régler avant de passer à autre chose. Vous le lirez, Osée 4, 1. Mais il faut être honnête. Si j'ai un truc à régler, je vais le faire. Je vais faire la démarche. Tu as un procès avec moi, Seigneur? Il y a un procès injustice? Tu me convoques en injustice? Eh bien, j'accepte, puisque ça vient de toi. Si ça vient de Dieu, c'est très bien. Je t'exhorte. Mes frères et sœurs, combien nous serions heureux si demain, en partant au travail, en étant dans la rue, chez le boucher, chez le je ne sais rien, chez le coiffeur, une parole de Dieu qui va convaincre quelqu'un. Je t'exhorte à ranimer la flamme, parce que le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, si tu es né de nouveau, parce que ça aussi c'est un autre problème, le nombre de chrétiens qui ne sont jamais nés de nouveau, ça c'est un autre problème archi grave dans les églises. Mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Eh bien si je manque de sagesse, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Qui donne? À qui il donne? À tous. Simplement et sans reproche. Si je manque de force, Seigneur, ben fortifie-moi. Fortifie-moi. Dieu peut vous fortifier. En lisant la Bible, Dieu vous fortifiera. En priant, Dieu vous fortifiera. Écoutez, c'est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Fortifie-toi dans le Seigneur. Par sa force. Eh bien, Seigneur, dans la prière, je vais recevoir. Je ne vais peut-être pas m'en rendre compte. C'est comme quand je mange, au bout d'un moment, j'ai plus faim. Et mon corps est fortifié. Tout ça, ça va se transformer en globule rouge, en globule blanc. Moi, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je sais que ça marche. Et quand on se nourrit de la parole de Dieu, ça marche. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais demander, même si je veux faire partie de ces 300 qui dans leur vase auront ce flambeau, cette trompette. Vous rappelez? Je veux faire partie. de ces trois saints, qui combattront le bon combat, qui entendront l'exhortation, et pas qui diront oui, oui, c'était bien, c'était intéressant. Non, c'est pas une question que ce soit bien ou pas bien. J'avais besoin de ça. Il faut que je ranime cette flamme. Je veux être dans l'Église. Si je vous demande, par exemple, je vous le dis de la part du Seigneur, si je vous dis, aidez-moi à préparer les prochaines réunions, les prochains cultes, les prochaines réunions d'évangélisation. Si ça vient de Dieu, qu'est-ce qu'il vous faut faire, hein? Eh bien, il faut s'y mettre. Seigneur, tu me demandes ça? C'est Myriam dans sa prière, oui, Myriam, qui priait tout à l'heure. Mais Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous d'abord d'être fidèles dans les petites choses. Vous vous rappelez sa prière, vous avez écouté. Avant d'être fidèle dans les grandes. Ah ben Seigneur, tu me parles, mais tu peux utiliser M. Gaud de cette façon. Eh bien oui, je vais préparer les réunions. Le dimanche matin, je me lèverai un peu plus tôt et je combattrai le bon combat pour que les pécheurs qui viennent soient convaincus de péché. Je t'exhorte. Comment ça va se passer? Le Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et ça, il n'y a pas photo. Tout le monde l'accepte ou pas. Mais vous, si vous acceptez cette prédication, si vous dites, Seigneur, c'est une exhortation, tu m'encourages, oui, j'ai été méprisé, oui, il y a eu cette affaire, oui, il y a eu ce problème, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est à côté de ce que Jésus a souffert au calvaire? Qu'est-ce que c'est à côté de ce que Jésus a subi? Le Fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Nos petites broutilles. Alors Seigneur, je prends courage. Oui, je sais que j'aurai des tribulations, elles ne sont pas méchantes, vous savez. Allez au musée du désert. Allez-y au musée. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un voyage au musée du désert. Et vous allez voir ce que les chrétiens ont subi. Pour que la parole nous soit transmise. Ce qu'ils ont accepté pour que les générations qui allaient suivre aient la parole de Dieu comme nous l'avons nous. Vous allez voir que nos petits problèmes à côté, c'est ridicule. Alors mes frères et sœurs, je t'exhorte. Mon frère, je n'ai pas le temps, parce que vraiment, j'ai vraiment des versets. Mais quand il est dit dans la Bible, par exemple, que nous devrions être capables de nous exhorter les uns les autres. Romains 15, 14, vous êtes capables. Notre capacité, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Ne vous imaginez pas que quelqu'un est capable parce qu'il a du caractère ou parce qu'il a une personnalité super positive. Vous savez, oh celui-là, il est positif. Non, 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 on n'est pas dans le positif ou le négatif. On est spirituel ou on ne l'est pas. Vous êtes capable de vous exhorter les uns les autres. Vous êtes capable de vous édifier vous-même, dit Jude, sur votre très sainte foi. Et je termine avec cette question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce sont des questions que Paul pose aux Corinthiens pour que nous comprenions bien que ce que nous donnerons sera quelque chose que nous aurons d'abord reçu. Pas par Internet, dans la présence de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, fermons les yeux quelques instants. Nous devons prier parce que certains, vous devez m'aider. Vous savez, quand Paul disait, mais priez pour moi, combattez avec moi, et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire aidez-moi. Je pense que beaucoup de chrétiens ne combattent pas et ils s'appauvrissent. Mes frères et sœurs, combattons le bon combat. L'Église de France a besoin de 300 soldats minimum qui vont avec leurs lampes, leurs cruches, leurs flambeaux, leurs vases. Ils vont être là, dans la présence de Dieu, obéissant à leur chef. Notre chef, c'est Jésus-Christ, qui nous dit, je t'exhorte. Oui, tu as été méprisé. Oui, tu as vécu ça. Oui, tu as subi cette injustice. C'est pas grave. Le Seigneur t'a donné un exemple. Il ne rendait pas le mal. Quand il était maltraité, il ne faisait pas de menaces. Quand il était injurié, il ne rendait pas les jugements. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Alors mon frère, ma sœur, quelles que soient les luttes, quels que soient les combats, Dieu te dit, je t'exhorte, tu entends mon frère, ma sœur, je t'exhorte à ranimer la flamme, ça te prendra du temps. Mais franchement, ça vaut pas la peine de prendre, s'il le faut, une heure, demi-heure, trois quarts, j'en sais rien. On le sait combien de temps il faut quand même. On sait très bien si vous avez besoin, il y a des gens, il leur faut un sandwich, ils sont repus, il y en a, il leur en faut quatre. Eh bien, manger, ce qu'il faut pour que vous puissiez dire « L'Éternel restaure mon âme ». Mon frère, Dieu savait que tu viendrais ce soir, ma sœur. Moi, je vous le dis de sa part, je t'exhorte à ranimer la flamme, quel que soit ce qu'il a éteinte ou diminué. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour, de sagesse. Retrouve-les. Il te remplira. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On va prier simplement. On va prier. Dieu regarde au cœur. Dieu voit comment vous avez écouté. Dieu voit. Vous savez, on a parlé de Gédéon tout à l'heure. Il était en train de travailler. Il travaillait pour sa famille. Il voulait avoir du blé, du froment. C'est pareil, c'est presque pareil. Il voulait du froment pour sa famille. Il se cachait. Il travaillait pour sa famille. Nous travaillons pour l'Église. Notre famille, c'est l'Église. Alléluia. Alors prions, frères et sœurs, pour notre famille, l'Église. C'est écrit que nous sommes la famille de Dieu.